Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay, you know, it's okay.
L'épopée que nous allons vous conter aujourd'hui prend sa source à la fin des années 60, quand la Fronde sociale de la communauté noire américaine tente de résister à l'érosion du temps. James Brown a beau hurler « I'm black and I'm proud »,« Je suis noir et j'en suis fier », la désillusion l'emporte après les assassinats des grands orateurs que furent Malcolm X et Martin Luther King. C'est dans cette ambiance de chaos absolu que notre invité du jour a plongé son récit, un roman intitulé « Brûle » et signé Laurent Rigoulet. Soyez le bienvenu.
Bonjour.
Brûle est donc l'histoire d'une génération d'Afro-Américains désœuvrés qui, dans le Bronx des années 70, cherche à se faire entendre à travers une attitude, une culture qu'on appellera le hip-hop et dont les racines remontent aux heures sombres de la ségrégation raciale quand le parrain de la soul, James Brown, imprimait un rythme et des slogans dans l'épopée des musiques noires. Quel est le but finalement de ce livre, Laurent Rigoulet ? Est-ce que c'est réhabiliter des pionniers, rétablir une vérité historique ?
C'est réhabiliter les pionniers, ça c'est sûr, c'est leur rendre hommage aussi parce qu'ils ont été longtemps complètement oubliés. Ils le sont un tout petit peu moins maintenant parce qu'on commence à reconstituer l'histoire, à poser des plaques commémoratives dans le Bronx, à les citer un peu plus souvent pour certains. Kulerk par exemple, dont je vous parlerai plus tard, qui est le véritable pionnier à mon sens. Et raconter cette histoire qui est peu connue, c'est la naissance d'une musique dans un endroit bien particulier, un endroit, si on prend l'ensemble du Bronx, c'est Paris, en taille, mais l'endroit où est né le rap, le South Bronx, c'est quelques pâtés de maison. Donc en quelques années, sur quelques pâtés de maison, naît une culture, naît une musique qui va dominer la planète, la culture jeune, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ça, j'avais envie de le raconter parce qu'en plus, cette musique, elle est née au début des années 70. Or, pour tout le monde, elle est née en 1979 avec Rapper's Delight. Il y a plusieurs années comme ça qui se passent dans le Bronx et qui ont absolument disparu des mémoires. Donc j'avais absolument envie de replonger dans ces années-là et d'aller voir ce qui s'y était passé.
Vous datez la naissance de la culture hip-hop le 11 août 1973. Rien n'avait eu lieu avant cela ?
Dans le livre, je raconte un peu tout ce qui a lieu avant, mais le 11 août 1973, c'est une soirée mythique. C'est la première soirée donnée par donc, ce DJ qui s'appelle Kulerk et qu'on considère maintenant communément comme le pionnier du hip-hop. C'est une soirée totalement banale à l'origine, puisque c'est juste une soirée qu'il donne dans son immeuble dans le Bronx. C'est une fête qui est organisée par sa sœur pour se faire de l'argent pour la rentrée. Et Kulerk, que ce soir-là, passe donc les disques qui vont le rendre célèbre. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, début des années 70, la radio américaine change. Le format des radios se simplifie à l'extrême, c'est-à-dire qu'on passe de moins en moins de disques. Une des musiques qui se retrouve un peu marginalisée, c'est la musique noire, notamment celle que James Brown, à la fin des années 60, popularise, qui est le funk, c'est-à-dire une musique très noire, basée uniquement sur le rythme, qui est la bande-son à l'époque de ce mouvement de protestation, Black Panther, le Black Power, enfin toute cette expression noire. Donc on l'entend peu à la radio. Kool Herc, dans le Bronx, fait des fêtes où il passe ses disques. Les gens sont prêts à marcher pendant des heures pour aller à ces fêtes, pour écouter ses disques. Et cette première soirée, elle est devenue la soirée d'origine parce que les gens, voilà, à un moment, avaient besoin de se dire ça a commencé quelque part. Et maintenant, ils imaginent tous qu'ils y ont été, que c'était le contenu. Mais c'était une soirée... je veux dire, les gens qui m'en parlaient exagéraient tous. Ils y étaient, on ne sait pas s'ils y étaient vraiment. On entendait la musique à plusieurs kilomètres. Les gens venaient, sortaient de partout.
Mais ça, c'est pour la légende, on va dire.
C'est la légende, oui.
En quoi est-il déterminant, ce DJ Kool Herc, dans la genèse de la culture rap ?
Kool Herc, il est déterminant d'abord parce qu'il est le premier. Mais avant toute chose, avant d'en venir à ça, il est important parce qu'il synthétise tout. Il arrive à New York à la fin des années 60, de Jamaïque. Il est né dans le même quartier que Bob Marley. Il a connu l'éclosion des sound systems en Jamaïque. Il a vu de ses yeux d'enfant ces immenses haut-parleurs diffuser une musique avec des basses énormes. Ça l'a fortement impressionné. Il a vu les types prendre le micro pour parler sur la musique. Donc, il a gardé ça dans son esprit. Il est arrivé à New York et à la fin des années 60, il a fait partie du premier gang de graffiteurs, c'est-à-dire que les enfants du Bronx totalement abandonné de tous, dans ces immeubles qui brûlaient partout, enfin dans un quartier vraiment sinistré, absolument sinistré, ont commencé à écrire sur les murs, sur les métros, pour exister. Ça a été la première composante du hip-hop. Kool Herc faisait partie de la première bande fameuse. Il était danseur. Il dansait, voilà, comme tous les enfants à l'époque dansaient, en prenant des pas à James Brown, machin, c'était une compétition permanente. Il dansait, il mettait des disques, le funk. Et donc, il avait en lui toutes les composantes de cette culture qui allait se développer dans les années suivantes.
Je précise que la bande-son de votre roman est disponible chez Piass. Et cette Bronx mixtape est l'occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres qui ont marqué l'époque, et notamment Rapper's Delight par Sugar Hill Gang.
To the hip, hip, hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Or to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? My girl gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, hotel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, I'm a Mellow. It's on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E.
I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy air. You're rocking to the beat without a care. Cruise to the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same.
Rapper's Delight, le premier grand classique de l'histoire du rap qui a fait bondir les pionniers du genre car il s'agissait d'un coup marketing.
Je vais quand même préciser parce que c'est fabriqué, donc c'est un disque de producteurs. Ça a fait bondir les pionniers du genre parce qu'ils se sont fait voler certaines de leurs paroles et puis parce qu'ils ont été exclus de quelque chose qui était en train de surgir, d'un mouvement commercial qui allait les évacuer. Mais néanmoins, en le réécoutant encore une fois, là, il faut quand même constater que c'est extraordinaire. Que les types qui sont au micro, ils ont un swing dans la manière de rapper qui est déjà vraiment fantastique. Et c'est aussi pour ça que ce morceau a eu un tel impact.
Dans votre roman, cela dit, qui s'appelle Brûle, aux éditions Don Quichotte, on réalise progressivement que DJ Kool Herc, l'artisan originel de cette culture, a été finalement le plus intègre et donc le plus floué dans cette histoire. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors moi, je pense que c'est complexe. Est-ce qu'il a été intègre ? Oui, d'une certaine manière, il n'a pas souhaité, comme le faisait Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, aller mixer dans le sud de Manhattan, dans les boîtes à la mode, voilà. Est-ce qu'il n'a pas souhaité ou est-ce qu'il était déjà dépassé ? Parce qu'en fait, le truc de Kool Herc, qui venait de la Jamaïque, qui venait de son père aussi, son père construisait lui-même des grandes enceintes très puissantes, tout ça. L'idée de Kool Herc, c'était le son, comme en Jamaïque. C'est-à-dire, on va tout dominer par le son. Quasiment l'expression maintenant utilisée dans le rap, faites du bruit, quoi. C'est-à-dire vraiment, j'ai la plus grosse sono et je vais vous exploser. Et il est vraiment resté là-dessus. Et donc, il n'a pas forcément vraiment développé la technique. Lui, son truc pour faire durer les morceaux, c'était vraiment de faire tomber l'aiguille sur chaque disque à peu près au bon moment. Alors que pendant ce temps-là, Grandmaster Flash et les autres, ils passaient des heures et des heures dans leur chambre à trouver le moyen d'enchaîner les choses. Puis bon, après le scratch, enfin tout ce qui s'est développé. Au début, il les a dominés. Grandmaster Flash, il les ridiculisait avec sa sono quand il faisait des affrontements de DJ à DJ en disant « Écoute, tu vois, moi j'ai des graves, j'ai des aigus, j'ai même des médiums et toi t'as quoi ?» Et puis ensuite, il s'est fait
rattraper,
dépasser. Alors, intègre, probablement. En tout cas, il avait une véritable volonté de représenter sa communauté. C'était son idée au début. C'était vraiment de faire la musique pour sa communauté. Après, voilà, ça s'est devenu une telle compétition très très vite. Je ne suis pas sûr qu'il n'aurait pas voulu y participer et la gagner.
Et qu'en est-il des Afrika Bambaataa et Grandmaster Flash ? Est-ce que vous les voyez comme des opportunistes ou des créateurs dignes ?
Afrika Bambaataa, c'est un personnage extraordinaire. D'abord, ancien membre de gang, très engagé politiquement, proche de la Nation de l'Islam, mais avant des Black Panthers, et ça, qui a lui vraiment théorisé le mouvement hip-hop, c'est-à-dire rassembler les quatre disciplines, mais aussi, surtout, dire au milieu des années 70, nous sommes en train de nous détruire par les bagarres entre gangs et nous allons inventer une forme artistique qui nous permettra de nous affronter dans la danse, dans la musique, dans l'expression artistique. Et lui, il a véritablement été le penseur, il avait une personnalité très, très charismatique et les gens l'ont suivi. Et puis Grandmaster Flash, c'était un surdoué, un technicien, un artiste, il était fulgurant. Je pense qu'ils ont tous quelque chose pour eux.
Que pensez-vous de The Message, le grand classique attribué à Grandmaster Flash, alors qu'il n'apparaît pas dessus ? Est-ce que ça a servi la cause du mouvement rap ?
Bah oui, tout à fait. Moi, ça a été la grande découverte de l'enquête, parce que je me souviens vraiment à l'époque où je passais du rap au début des années 80 à la radio, que The Message, c'était vraiment le pont entre les différentes cultures. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les Clash, rock, punk, engagé, militant, et de l'autre côté, on avait cette musique qui arrivait de New York, de cette ville détruite, avec ce rap, The Message, qui parlait de ces conditions-là, poétiquement, et qui était un morceau, mais vraiment extraordinaire. Et puis, en avançant dans les recherches sur ce livre, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, The Message, c'était encore une fois un disque de producteur, que l'idée venait de la même productrice qui avait produit Rapper's Delight.
Sylvia Robinson.
Sylvia Robinson, et que Grandmaster Flash lui-même n'était pas sur le disque. Il n'avait pas tellement envie de l'enregistrer. De toute façon, ce n'est pas lui qui l'avait écrite. Il y a juste un couplet dans The Message qui est écrit par un des membres de son groupe, c'est tout. Le reste, en fait, c'est tout fait par Sylvia Robinson. Et quand on regarde les crédits, effectivement, tout l'argent a été à Sylvia Robinson.
Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skip the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so diddy, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
The Message, Grandmaster Flash and Furious Five en 1982. Laurent Rigoulet, il y aurait encore plein de protagonistes à citer pour évoquer votre roman. Coq Larocq, Montagu, Gary Senior, Gary Junior. Lesquels sont des personnages réels et lesquels sont des personnages de fiction?
Ça, je ne sais pas si je dois vraiment le dire, mais quand même, si je peux juste dire que ce qui est du côté de la narration, du narrateur, c'est-à-dire le narrateur et son grand-père sont fictifs. Ensuite, j'ai voulu raconter l'histoire de la naissance du rap. Donc ensuite, mon souci était de raconter l'histoire la plus vraie possible, d'en faire la chronologie, d'en faire exister les personnages, et de créer des passerelles avec le passé, de convoquer en fait tous les fantômes de la culture noire américaine qu'on entend dans le rap. Montagu, dont vous parlez, était un animateur de radio extrêmement important pour deux choses. Parce que d'abord, le terme rap, ça n'est pas né avec le hip-hop. Le terme rap en américain, c'est juste une expression argotique, enfin une expression communauté noire qu'on pourrait traduire par tchatch, par baratin, c'est les baratineurs. Et les premiers grands baratineurs, bon, évidemment les pasteurs, pentecôtistes, enfin on le sait, les messes, enfin voilà. Et puis la radio est extrêmement importante. L'arrivée après la guerre des animateurs blagues, des animateurs blancs qui singe au micro les animateurs blacks, et parmi eux il y a un type qui est formidable qui s'appelle Montagu. Il est formidable parce que il est passionné de culture noire américaine, parce que il veut faire revivre en fait toute la poésie de son peuple. Il va chez tous les bouquinistes pour trouver des bouquins, et à l'antenne il lit des poèmes. Il invente lui-même des poèmes, il rappe sur l'intro des disques. Il a ce slogan fabuleux qui est « Burn, baby burn ». Quand il aime un disque, il dit « Brûle, chérie, brûle ». Et puis en 1965, il est animateur à Los Angeles. Et tous ces gens qui l'écoutent dans les quartiers noirs, quand il y a les émeutes, ils sortent tous dans la rue en criant « Brûle, brûle ». brûle, chérie brûle. Et donc son slogan Burn Baby Burn devient le mot d'ordre de la contestation. La police l'appelle en disant il faut plus que vous le disiez à l'antenne. Et lui, il continue. Voilà. Et ça, c'est une forme de rap qui, évidemment, préexiste au rap. Et puis il y a aussi, bon, par exemple, les Black Panthers qui sont des grands orateurs. Il y en a un qu'on appelle Rap Brown, simplement parce qu'il est un des meilleurs orateurs.
H. Rap Brown. Et Coq La Rock alors?
Coq La Rock, c'est le compère de Coolurk, donc c'est une espèce de marlou qui traîne avec Coolurk. Coolurk étant aux platines et ayant besoin d'un compère au micro, a Coq La Rock avec lui. Et donc Coq La Rock, il est connu pour être le premier rappeur dans l'histoire du rap, c'est-à-dire qu'à un moment, dans les soirées, c'est lui qui commence à inventer des phrases. Alors par exemple, Motel, Motel, Holiday Inn, qu'on entend sur le Rapper's Delight, bah, lui dit que c'est un truc qu'il racontait à l'époque. Le tout début, celui de Coq La Rock, c'est quand même essentiellement « Salut les gars, on est content d'être là, regardez, il y a machin ici, il y a machin là, on est les meilleurs, on va régner sur New York, ouais, c'est la fête, c'est chouette, on faisait rimer des choses comme ça ». Puis après, ça s'est développé.
Est-ce que ce livre est un écho de ce que nous percevons de la mairie d'aujourd'hui ?
Moi, j'ai été faire un reportage, par exemple, à Baltimore, avec les gens qui ont fait la série The Wire l'an dernier. Les conditions de vie dans les quartiers noirs sont absolument épouvantables. Ce qui se passe aujourd'hui, avec le mouvement de revendication Black Lives Matter, et le premier mouvement politique très, très, très furieux, engagé, qui est né depuis le mouvement des droits civiques, je ne pense pas que l'élection de Trump va calmer tout ça. Je pense que ça va brûler.
Et est-ce que les rappeurs d'aujourd'hui ont encore cette flamme contestataire en eux ? Est-ce qu'ils ne sont pas d'abord victimes d'un système qui les parodie ?
Non. Enfin bon, après, les rappeurs d'aujourd'hui, il y en a autant qu'il y a d'artistes de variété partout dans le monde. C'est donc le rap, c'est un domaine maintenant extrêmement étendu, donc c'est difficile de généraliser. Mais si on prend Kendrick Lamar, si on prend Common, dont le dernier album est un album politique extrêmement intéressant, si on prend la sœur de Beyoncé, Solange, qui ne fait pas du rap, mais enfin, qui fait aussi une musique engagée, et si on écoute, par exemple, le dernier album, ce que je vous recommande fortement de faire, de ce groupe qui n'enregistrait plus ensemble depuis 20 ans, A Tribe Called Quest, qui vient de faire un album magnifique. Il y a une chanson sur l'album qui s'appelle We the People. L'album, il est sorti quelques jours avant les élections de Trump, mais le vendredi, l'élection, c'était le mardi. Vous ne pouvez pas écouter We the People de A Tribe Called Quest maintenant sans avoir des frissons. C'est magnifique.
Le bassiste Marcus Miller nous disait il y a quelques semaines dans cette émission que les rappeurs d'antan, devenus adultes, il citait notamment Chuck D, devraient se faire entendre car ils ont une expérience, une maturité qui peut réveiller les consciences. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, enfin, je suis d'accord avec ça, mais tous devraient se faire entendre. Ensuite, le problème avec le rap, c'est que c'est devenu un tel business que la plupart d'entre eux ne prennent pas position ou sont absorbé par autre chose. En fait, Jay-Z, il a soutenu Hillary Clinton à la dernière seconde. Voilà. Mais ils ne sont pas extrêmement organisés. Ils ne s'entendent pas forcément bien. On ne les entend pas autant qu'on devrait les entendre. Mais je pense qu'on va les entendre.
Marcus Miller a en tout cas fait appel au rappeur Chuck D sur le titre « I Can Breathe » en référence à ce pauvre Eric Garner étouffé par des policiers blancs à New York en 2014. Hands in the air, not good when you're breathing in fear. Can't breathe, no smoke, hear the bear, hands way up in the air, be aware. Beware, never a good thing when you're breathing in fear. Can't breathe, don't smoke, hear the bear. Hands way up in the air, be aware and beware. Never a good thing when you're breathing in fear. Never a good thing when you're breathing in fear. I can breathe, je ne peux plus respirer. Marcus Miller et Chuck D s'insurgent contre les exactions policières aux États-Unis. Laurent Rigoulet, votre évocation du passé rejoint tristement celle du présent. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement lire Brûle, paru aux éditions Don Quichotte. Merci d'être passé nous voir.
Merci beaucoup.
Je signale par ailleurs que les éditions Papaguédé ont fait paraître le premier volume de la saga culte Dead Peace Corps consacrée à l'histoire du hip-hop. Une bande dessinée dans laquelle on retrouve vos amis Laurent Rigoulet, DJ Koolerk, Africa Bambaataa et Grandmaster Flash, entre autres. Rien à voir. Si vous voulez faire une bonne action ce mois de décembre, je vous recommande de vous procurer un ouvrage édité par Reporters sans frontières avec le concours de la Fondation BNP Paribas et l'agence Magnum Photo. Il s'agit de Jazz sans photo pour la liberté de la presse qui vous permettra de retrouver les figures légendaires que furent Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Miles Davis et quelques autres. Et pour 9,90€, vous soutiendrez Reporters sans frontières et la liberté de la presse dans le monde. Une dernière recommandation, jeudi prochain, 15 décembre, le chanteur Tony Momrel, ex-leader du groupe Incognito, se produira au New Morning à Paris. On le compare déjà à Donny Hathaway et Marvin Gaye. Il présentera au public parisien Keep Pushing, son nouvel album, et il se pourrait bien qu'il soit notre invité en janvier dans l'épopée. La semaine prochaine, nous continuerons notre exploration de la culture noire avec Christian Eudlin, auteur d'un ouvrage imposant qui réunit les 100 albums cultes de l'histoire de la soul et du R&B, paru chez Grund Edition. Merci à Victor Hull, DJ Master Funk du Studio 42 pour la réalisation tip-top de cette épopée hip-hop. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.